Calogero pour une émission spéciale. Redécouvrez le parcours du chanteur à travers 6 titres issus de son nouvel album 10. Rendez-vous à 17h sur Europe 1. Sur Europe 1 à suivre, la semaine politique. Vous allez retrouver Valérie Darmon et la Libre Antenne à partir de 23h. Excellente fin de soirée à l'écoute d'Europe 1.
Au carillon d'Europe 1, il est 22h.
Europe 1 Nuit Week-end. Brandon Ouarez.
Ravi de vous accompagner pour 15 minutes d'information. Et ce samedi, vous retrouverez la Libre Antenne de Valérie Darmon à partir de 23h15. Et pour parler avec Valérie, vous pouvez composer dès à présent le 01 80 20 39 21. Et voici les titres de ce samedi 30 novembre. Situation inquiétante en Syrie, la deuxième ville du pays aux mains des djihadistes et de leurs alliés. Après une offensive éclair, ils ont pris le contrôle de l'aéroport ce samedi. Des événements suivis de très près sur la scène internationale, notamment en France. Et le président syrien Bachar el-Assad affirme que son pays peut vaincre les terroristes. On fait le point dès le début de ce journal. Sur Europe 1, ce soir, nous prendrons également la direction des Côtes d'Armor. Où est passée Morgane ? Plus aucune trace de l'adolescente depuis 5 jours. 50 gendarmes, 800 bénévoles. De nouvelles recherches menées ce samedi. Et un samedi d'hommage à Romans-sur-Isère, un an après la mort du jeune Thomas, 16 ans, tué d'un coup de couteau dans un bar. Deux manifestations dans le calme. L'ultra-gauche face à l'ultra-droite. Reportage à suivre. Et puis, J-7 avant la renaissance de Notre-Dame de Paris. Europe 1 est allé à la rencontre de l'organiste qui aura l'immense honneur de jouer dès la réouverture de la cathédrale. Portrait d'un homme passionné et privilégié dans quelques minutes.
Europe 1.
Alep n'avait pas connu pareille situation depuis 2020. En Syrie, les djihadistes et leurs alliés ont pris la majeure partie de la deuxième ville du pays après une vaste offensive éclair. La France suit avec attention ces événements. Paris appelle d'ailleurs en ce samedi soir toutes les parties à protéger les populations civiles à Alep. Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir.
Une offensive éclair donc des djihadistes.
Oui, offensive célébrée par un défilé dans les rues d'Alep. Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, affiliés indirectement à Al-Qaïda et les rebelles syriens anti-régime, ont installé leur drapeau et déchiré un portrait de Bachar al-Assad avant d'instaurer un couvre-feu de 24 heures aujourd'hui pour la population. L'aéroport international, mais aussi des bâtiments gouvernementaux et des prisons sont désormais entre leurs mains. Selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 327 personnes ont été tuées dans les combats, 183 djihadistes ou rebelles, 100 soldats syriens et 44 civils.
Alors Caroline, cette attaque à Alep est un coup dur porté au régime de Bachar al-Assad dont les alliés, la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais sont affaiblis.
Oui, par les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, et cela n'a pas échappé aux assaillants qui, selon des spécialistes, préparaient l'offensive depuis des mois. Ces violences sont les premières d'une telle ampleur depuis des années. La guerre démarrée en 2011 avait fait un demi-million de morts et morcelé la Syrie. Chaque belligérant soutenu par des puissances étrangères. La bataille d'Alep, justement, en 2016, avait constitué un tournant dans le conflit. Le régime de Bachar al-Assad avait gagné de hautes luttes avec l'intervention de l'aviation russe.
Les explications, Caroline Baudry pour Europe 1. Merci beaucoup. Cette question à 22h03 sur Europe 1. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu en Ukraine? Volodymyr Zelensky se dit prêt à faire des concessions pour la paix. Il ouvre la porte à une perte temporaire de territoire, ceux occupés par la Russie. Mais si et seulement si l'OTAN protège les territoires contrôlés par Kiev. C'est la première fois qu'on entend le président ukrainien Volodymyr Zelensky faire une telle sortie depuis le début de la guerre le 24 février 2022.
Europe 1 Nuit Week-end. Brandon Ouarez.
Europe 1, dans 5 secondes, 22h04, où est passé Morgane ? Dans les Côtes d'Armor, l'angoisse grandit après la disparition de l'adolescente de 13 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis 5 jours. C'était lundi matin. Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête pour la disparition inquiétante de cette adolescente. Hier, une très importante battue était organisée. 50 gendarmes, 800 bénévoles rassemblés à Pabu, là où habite la famille de Morgane. Bonsoir Guillaume Dominguez, dites-nous, que sait-on exactement ce samedi soir de cette disparition?
Il est 7h15 lundi matin, comme chaque jour, Morgane salue ses parents avant de quitter la maison familiale pour se rendre au collège. Un traditionnel à ce soir qui sera le dernier, la famille n'a plus de nouvelles de l'adolescente depuis. Selon le procureur du parquet de Saint-Brieuc, Tous les scénarios sont étudiés, même si la piste de la fugue semble privilégiée. Il s'agirait d'une première pour la jeune fille. Avant de disparaître, elle aurait laissé un message sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'elle ne se rendrait pas au collège le lundi matin. La veille, Morgane s'est disputée avec ses parents à propos de l'utilisation des réseaux sociaux sur son téléphone. Au cours de la dispute, le père de l'adolescente aurait cassé son portable, saisi par la gendarmerie. L'appareil est en cours d'analyse pour Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Il pourrait être indispensable dans cette enquête.
C'est extrêmement important parce que ça nous permet de savoir avec qui elle communiquait réellement. Est-ce qu'elle a pu prévenir des amis qu'elle voulait partir peut-être avec une personne, de tracer ce qu'elle a visité comme site sur Internet. Ce sont des éléments très très importants pour avoir le profil psychologique de cette jeune fille.
Un profil psychologique que les enquêteurs ont aussi cherché à définir en interrogeant ses proches. Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment chez ses parents, sans résultat pour l'instant.
Les précisions, Guillaume Dominguez pour Europe 1. Abdoul Diallo, l'homme soupçonné du meurtre de l'agent municipal à Grenoble, mis en examen et écroué ce samedi soir. Arrêté au Portugal, il avait été remis à la France jeudi. Lilian Dejean a été tué le 8 septembre dernier, touché par une balle au thorax alors qu'il tentait de retenir un homme à l'origine d'un accident de la route. L'ultra-gauche face à l'ultra-droite. Rassemblement ce samedi à Romans-sur-Isère pour rendre hommage à Thomas, cet adolescent de 16 ans tué lors d'un bal à Crépol il y a un an. L'auteur du crime n'a toujours pas été identifié. Les rassemblements aujourd'hui ont d'abord été interdits par la préfecture et finalement autorisés par le tribunal administratif. Des manifestations dans le calme, hein, Noémie Loisel.
Oui, des contrôles d'identité, un dispositif aérien et des centaines de policiers mobilisés. Dans le centre-ville, 200 militants d'ultra-droite venus de Rouen, d'Angers, de Provence et à leur côté, Evelyne Reybert, la mère de Julien, victime d'une attaque au couteau à Romans-sur-Isère en 2020. Drapeau français sur leurs épaules, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme un laxisme judiciaire et politique face à l'immigration. Jean-Eude Gana est militant d'ultra-droite.
Je déplore que nous ne soyons pas plus nombreux. Ce qui s'est passé à Crépol il y a un an et ce qui s'est passé encore récemment avec la mort du jeune Nicolas, ce sont des faits de société. On a tous été victimes d'insécurité.
Dans le quartier de la Monnaie, 800 personnes se sont mobilisées. Dans le cortège, la mère de Zakaria, un adolescent de 15 ans, originaire du quartier, tué en avril en s'interposant lors d'une altercation. Sur place aussi, des habitants, plusieurs associations de gauche, des militants de la jeune garde antifasciste dont le député Raphaël Arnaud et des sympathisants de la France Insoumise dénoncent une récupération raciste. Julie Moret, les militantes au collectif pour Romans.
Ces gens-là instrumentalisent et renforcent la stigmatisation de toute une population et d'un territoire. Romans-sur-Isère, c'est une ville moyenne avec des gens moyens qui vit relativement paisiblement.
Les policiers seront mobilisés ce soir à Romans-sur-Isère il y a un an, près d'une semaine après la mort de Thomas à Crépol. 80 militants d'ultra-droite étaient descendus dans ce quartier de la Monnaie. Un membre de l'ultra-droite avait été roué de coups.
Reportage Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 dans le Sud-Est. 22h08, vous écoutez Europe 1 Nuit Week-end. Le gouvernement Barnier sera-t-il encore aux commandes la semaine prochaine? Marine Le Pen met la pression sur le Premier ministre. Elle lui a donné jusqu'à ce lundi pour faire de nouvelles concessions au sujet du budget 2025. Alors en cas d'utilisation du 49-3 lundi, une motion de censure pourrait être débattue dès mercredi à l'Assemblée nationale. Alors pendant ce temps-là, le gouvernement doit rester attentif à la colère des agriculteurs, mais aussi à celle des viticulteurs. Ils ont battu à leur tour le pavé et ce samedi, une importante manifestation a eu lieu cet après-midi à Carcassonne dans l'Aude. 2000 viticulteurs rassemblés, Alexis Bourdon.
Alors que le cortège avançait dans le calme, un groupe d'une dizaine de personnes a décidé de prendre à partie la direction départementale de l'Aude. Ces viticulteurs cagoulés et masqués ont jeté des pierres, des pétards et des panneaux de signalisation sur une compagnie de CRS qui gardait le bâtiment. Des bombes lacrymogènes ont dû être envoyées pour dissiper ces éléments perturbateurs. Pour Marc, viticulteur dans l'Aude, cette escalade de la violence témoigne des difficultés rencontrées par la profession.
Chaque année, on a nos revenus qui diminuent, les récoltes qui nous sont impactées par la sécheresse, les aléas climatiques, on récolte plus rien. Et à la fin du mois, on a des prêts à payer, les assurances, et à la fin, on n'a plus rien pour se verser dans nous-mêmes. Il y en a ras-le-bol, maintenant, il faut agir. Il ne faut plus attendre. On fait ce qu'on peut pour survivre.
Les affrontements se sont même poursuivis après le départ de la majorité des manifestants. Des poubelles et des conteneurs d'or. d'ordures ménagères ont également été incendiées et d'autres grenades lacrymogènes ont été envoyées sur les rares tracteurs présents mais pourtant interdits dans la ville aujourd'hui. Le calme est désormais revenu ici à Carcassonne, même si quelques camions de gendarmerie quadrillent toujours la zone pour empêcher de nouvelles confrontations.
Alexis Bourdon, correspondant d'Europe 1 en Occitanie, au cœur de cette manifestation des viticulteurs. Un numéro à retenir à 22h09 sur Europe 1, le 36-37, pour aider le Téléthon et faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. Pour l'instant, à 22h09, c'est 58 810 775 euros de promesses de dons récoltées. Alors vous pouvez appeler ce numéro jusqu'à ce soir minuit. Il reste actif pendant une semaine. Vous pouvez également faire un don sur le site internet don.téléthon.fr. L'an dernier, le Téléthon a reçu 93 millions d'euros de dons.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarette.
22h10, merci de passer votre samedi soir en notre compagnie. Je vous le rappelle, votre libre antenne débutera ce soir à 23h15. Ça y est, on connaît les têtes d'affiche du concert de réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce sera samedi 7 décembre prochain. Clara Luciani sera présente, Vianney également, tout comme Angélique Kidjo, le pianiste chinois Lang Lang, la soprano sud-africaine Pretty Yend, qui était déjà à l'œuvre pour le couronnement du roi Charles III à Londres. Alors, beaucoup d'autres noms, là tous dans un coin de notre tête. Lui aussi sera présent, il ne manquera pas ce rendez-vous. C'est le plus célèbre bossu de Notre-Dame.
Paix, c'est un mot qu'on dirait inventé pour paix. Quand t'es dansé, qu'elle met son corps un jour.
Vous l'avez reconnu, c'est Garou, le chanteur canadien rendu célèbre dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Le concert comptera aussi un orchestre philharmonique avec à la baguette le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel. De quoi clôturer en beauté cette première journée des cérémonies de réouverture. Emmanuel Macron a effectué hier sa dernière visite sur le chantier au cœur d'une cathédrale plus belle que jamais. Une résurrection qui sera symbolisée par le réveil de l'orgue. L'instrument abîmé par la poussière il y a 5 ans était entièrement démonté de ses 8000 tuyaux puis remonté. Leur son résonnera donc pour la première fois de façon officielle samedi prochain. Un événement pour le plus grand bonheur d'Olivier Latrice, l'organiste titulaire de Notre-Dame. Europe 1 est allé à sa rencontre avec Antoine Bienvaux.
L'incompréhension, la peur, les larmes, Olivier Latrie n'a rien oublié de ce 15 avril 2019, de ce lundi où depuis l'Autriche, il a appris impuissant la tragédie qui touchait sa deuxième maison.
Je reçois un texto d'un ami qui me dit « Olivier, c'est horrible, Notre-Dame brûle ». J'ai tout de suite appelé mon collègue de l'Orgue de Cœur, il me dit « La flèche vient de tomber, tu peux pas savoir, c'est horrible ».
5 ans plus tard, sur le parvis d'une cathédrale qu'il contemple à nouveau avec des yeux d'enfant, ce souvenir semble pourtant bien loin, car l'organiste ne pense désormais qu'à son orgue et au réveil de l'instrument samedi prochain.
L'archevêque va tout de suite s'adresser à l'orgue en lui disant « Oh orgue, réveille-toi, chante la louange du peuple de Dieu, etc. » C'est un moment chargé d'émotions. On entend réellement l'orgue se réveiller. J'attends ce moment avec impatience.
Un retour très attendu derrière le grand orgue et un instrument à redécouvrir.
Les auditeurs entendront l'orgue comme ils ne l'ont jamais entendu auparavant, puisque le fait qu'il n'y ait pas de poussière fait un peu plus résonner l'orgue. En fait, les surfaces sont totalement lisses et donc reflètent le son beaucoup plus que avant l'incendie.
Une musique plus claire que jamais qu'Olivier Latrie compte bien faire résonner dès le 7 décembre pour définitivement ressusciter l'orgue de Notre-Dame.
Reportage d'Antoine Bienveau pour Europe 1. 23h, 22h13 sur Europe 1. L'actualité est aussi sportive ce samedi soir avec du football au menu ce soir. La suite de la 13e journée de Ligue 1. Le PSG qui reçoit Nantes en ce moment joue la 54e minute. Et pour l'instant, un but partout avec notamment le but d'Achraf Hakimi. Les Parisiens doivent tourner la page après cette défaite, nouvelle défaite en Ligue des Champions cette semaine. À noter quand même, puisque les supporters nantais sont présents au Parc des Princes 1000. Au total, ils ont été autorisés une semaine après les problèmes dans les tribunes face au Havre et ces projectiles notamment lancés sur l'arbitre. Ils peuvent donc être présents ce soir. On a dans les autres rencontres ce samedi un festival breton. Rennes qui atomise Saint-Etienne à domicile. Victoire 5-0. C'était la première à domicile de Sampaoli. La Bretagne qui brille ce samedi soir, notamment avec Brest. Victoire 3 3-1. Et du football féminin ce samedi soir au menu également. France-Nigeria, match amical qui se joue en ce moment. Les Bleus, pour l'instant, mènent à la mi-temps 2-1. C'est un match amical hein, pour les joueuses et les coéquipières de Selma Bacha avant le début de la Ligue des Nations. Ce sera en février et les Bleus retrouveront l'Espagne à Nice. Ce sera ce mardi.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarette.
22h14 dans Europe 1 Nuit Weekend et l'heure de la météo. Alors, quel menu demain? Bonsoir Anthony Kazmarek. Bon, vous n'êtes pas très original ce soir parce que le soleil, ce sera uniquement pour la moitié sud.
Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Bah dites donc, vous me clashez directement en ouverture de la météo. Bravo, je ne vous remercie pas. Bon, effectivement, le soleil, demain, ce sera surtout pour la moitié sud, mais avec quelques nuances. Il y aura parfois des brouillards fréquents le matin dans la vallée de la Garonne, et puis des entrées maritimes entre le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Entrées maritimes qui se disloqueront l'après-midi pour laisser la place à de belles éclaircies. Et les brouillards du sud-ouest se dissiperont aussi avant la mi-journée. Pour la moitié nord, et bien toujours ces brouillards, parfois givrants, en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, vers le Val-de-Saône, jusqu'au nord de la région lyonnaise. Sur le reste des régions du nord, et bien on accueillera une nouvelle perturbation avec un ciel couvert et de petites pluies sur la Bretagne, le Cotentin le matin. Et cette perturbation gagnera au fil des heures les Hauts-de-France, l'ouest de l'Île-de-France, toute la Normandie et les Pays de la Loire avec toujours un ciel gris et 2-3 gouttes. Quelques éclaircies feront leur retour sur la Bretagne et la pointe du Cotentin. Et puis les brouillards du nord-est devraient presque se dissiper partout, sauf autour du Dijonais. Et un voile de nuages va s'installer après une grisaille matinale parfois dense sur le centre-val de Loire, l'est de l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et Poitou-Charentes.
Alors demain, c'est le premier jour de l'hiver météorologique avec encore un grand écart de température, Anthony.
Ah oui, dans certaines régions, ça n'aura rien d'hivernal. Déjà aujourd'hui, hein, grand écart, fallait vraiment être souple. Moins 1 degré seulement cet après-midi à Nancy. Dans le même temps, presque 25 degrés à Cambo-les-Bains, au Pays Basque. Je ne sais pas si vous faites de la gymnastique, Brandon, mais là, on est vraiment dans des écarts tout à fait remarquables pour la saison. Et demain, même chose, moins 3 degrés à Nancy au lever du jour. Dans le même temps, 12 degrés à Brest. Et souvent des gelées hein, sur le quart nord-est. Un petit degré à Paris. Et dans l'après-midi, 5 degrés à Strasbourg et à Dijon et 22 degrés à Tarbes, toujours le printemps au sud de la Garonne quasiment, 18 à Bordeaux, 16 degrés pour Nice, Toulouse et Clermont-Ferrand, 15 à Brest, 12 degrés à Paris, c'est 4 de plus qu'aujourd'hui, la douceur s'installe hein, sauf dans le nord-est, 11 à Grenoble, 10 à Lyon, 9 degrés pour Lille et Besançon.
Merci beaucoup Anthony Kazmarek, on vous retrouve demain soir et tout à l'heure vous avez rendez-vous avec Valérie Darmon pour la Libre Antenne, ce sera exceptionnellement à 23h15. Dans un instant, retour sur la semaine politique sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Pro, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Pro et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Bonjour Pascal, je suis ravi de vous entendre.
Je ne comprends pas que les autorités tolèrent des appels à la violence.
Il n'y a pas une année sans qu'il se passe une grève.
Mais c'est honteux, c'est révoltant. On est la France qui bosse, donc on n'a même pas le temps de faire la révolution.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
À lundi de 11h à 13h sur Europe 1, je compte sur vous.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, j'ai vu votre offre sur les jouets. Ravi d'apprendre que Noël commence fin novembre.
Comment ça?
Bah, 50% de tickets Leclerc, pile sur les jouets Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price, dont mes enfants rêvent. C'est pas la magie de Noël, ça peut-être?
C'est plutôt la magie de Leclerc. Les 29 et 30 novembre pour l'opération jouets, il y a 50% de tickets Leclerc avec votre carte sur tous les jouets Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Offre également disponible dans nos magasins jouets Leclerc.
La semaine politique Europe 1. Lénaïque Monnier.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la semaine politique. L'actualité, vous le savez, est très riche. Les invités sont nombreux à se succéder sur l'antenne d'Europe 1 pour l'évoquer. Alors, si vous n'avez pas pu tout suivre, voici les moments les plus importants, compilés juste pour vous. C'est parti.
La semaine politique.
Eh bien oui, parce que s'achève la semaine du handicap au travail. Ça va être l'occasion pour Europe 1 de se poser quelques questions et notamment comment assurer une égalité des chances. Il faut dire que ce ministère est très vaste. Bonjour Charlotte Parmentier-Lecoq.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le rendez-vous matinal d'Europe 1. Alors déjà, pour commencer, il faut avoir un travail. Alors certes, les chiffres du chômage sont meilleurs, mais ils restent au-dessus de celui des autres demandeurs d'emploi.
Oui, alors déjà, je voudrais vraiment insister sur le fait que les personnes en situation de handicap, elles ont surtout des aptitudes, et c'est ça qu'elles voudraient qu'on puisse reconnaître et qu'on prenne en compte leur capacité à travailler. Mmh. Elles expriment beaucoup une envie de travailler, une motivation. Et ça peut intéresser évidemment beaucoup les employeurs. Et donc, il faut qu'on continue à agir sur les représentations qu'on peut encore avoir vis-à-vis du handicap, mais aussi après sur tout l'accompagnement qui permet de pouvoir intégrer les personnes en situation de handicap dans une entreprise.
Alors oui, parce que la France, elle est pas très très bonne élève en matière d'inclusion, que ce soit dans le privé ou même dans la fonction publique. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Oui, il y a du chemin qui a été fait.
Oui.
On a fait reculer le chômage des personnes en situation de handicap de façon très forte depuis 2017, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on continue de tous s'engager dans la fonction publique comme aussi dans le secteur privé. Et moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'entreprises qui notamment sont sur des métiers en tension, s'ouvrent plus à un public en situation de handicap et se rendent compte qu'elles trouvent de véritables pépites à recruter.
Alors Charlotte Parmentier-Lecoq, comment est-ce qu'on convainc aujourd'hui justement un patron d'embaucher des personnes qui sont en situation de handicap et je précise à salaire décent?
Oui, alors évidemment le premier pas quand un entrepreneur fait une démarche de recrutement, c'est qu'on puisse aussi lui proposer des profils de personnes en situation de handicap, et on a fait une réforme du service public de l'emploi qui est en train de se déployer, de se mettre en œuvre avec France Travail, avec tout le réseau CAOPS des Cap Emploi. Mmh. Et donc quand un chef d'entreprise fait appel à France Travail, France Travail peut lui proposer aussi d'abord des CV, des profils qui soient adaptés aussi au poste, mais aussi des mesures d'accompagnement. Et donc tout l'enjeu ensuite, c'est qu'on puisse avoir une organisation avec les partenaires, notamment la GFIP, ouais, pour bien accompagner ensuite l'adaptation au poste, par exemple, et l'intégration de la personne.
Parce que c'est très très vaste, hein, le handicap, hein, il peut être visible, il n'est pas que physique, c'est compliqué, hein, également.
Oui, c'est ça. Et ce que l'on voit aussi, c'est que c'est plus compliqué peut-être pour des entreprises plus petites, mmh, des PE, PME qui ont moins de staff en matière de ressources humaines et de recrutement. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans une démarche de ce qu'on appelle transformation de l'offre médico-sociale. C'est un peu jargonneux de le dire comme ça, mais l'idée, c'est vraiment que les compétences des professionnels du médico-social qui accompagnent les personnes en situation de handicap, mmh, puissent vraiment se déployer dans l'entreprise et que les solutions progressivement permettent aux entreprises de s'ouvrir à un public en situation de handicap. Moi, j'ai vu par exemple un ESAT, mmh, au sein d'une zone d'activité qui travaille en partenariat avec une entreprise voisine. Et le partenariat a commencé par de simples commandes de l'entreprise vers l'ESAT, puis par la création d'un atelier au sein même de l'entreprise, qui est déjà une démarche beaucoup plus inclusive, et qui se projette maintenant sur le recrutement de personnes qu'elle a pu commencer à connaître, à mettre en situation de travail. Et il y a vraiment énormément d'outils et d'initiatives qui existent. Donc, il faut y aller, il faut s'engager. Il y a des entreprises, il y a le réseau des entreprises qui s'engagent, qui est un réseau vraiment d'entreprises très moteurs et qui sont prêtes aussi à partager leurs bonnes pratiques à tous les entrepreneurs qui sont prêts à s'engager pour une société qui soit plus inclusive.
Et il faut en parler et il faut le montrer, le handicap, d'où la nécessité du duodé, hein. C'était cette semaine, on l'a connu sur Europe 1 notamment. C'est important, même si ce n'est que pendant une petite journée qu'on en parle.
Oui, c'est très important le duodé. C'est un moment où On peut sortir un peu de sa zone de confort en accueillant une personne en situation de handicap, mais c'est surtout le moment où on va se rendre compte de ses capacités, de ses aptitudes, et c'est ça qui est très important. Et puis, c'est aussi montrer qu'il y a une volonté dans l'entreprise d'aller plus loin dans une société inclusive. Et vous savez, on a vu à l'occasion des Jeux paralympiques que handicap et performance pouvaient aller de pair. C'est ce que démontrent des personnes en situation toute la journée, tous les jours au travail. Et le DOD est un des facteurs qui permet de démontrer ça, mais aussi ensuite de déclencher d'autres étapes, d'aller un petit peu plus loin avec, pourquoi pas, un stage, une formation ou directement un emploi.
Et c'est vrai que les Jeux paralympiques ont montré de très belles choses. Il y a deux navigateurs qui sont sur le Vendée Globe également, qui sont porteurs d'un handicap. Charlotte Parmentier-Lecoq, c'est vrai que le handicap, c'est au travail, c'est également dans la vie de tous les jours. Et côté accessibilité, c'est vrai qu'on se dit qu'on a encore un peu de travail à faire. Hein.
Oui, alors il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais là encore, on a fait beaucoup de choses grâce aux Jeux paralympiques. Mmh. On s'est mis vraiment en situation de rendre accessibles des équipements qui, là, vont être un héritage matériel des Jeux, mais aussi en termes de méthode, de process, on a vraiment acquis un savoir-faire pour développer l'accessibilité. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est-à-dire ne pas juste se dire à chaque fois « Oh, c'est trop compliqué » ou « Il faut des moyens ». Oui, il faut des moyens, mais c'est aussi souvent une question d'organisation. Mmh. Et de bonne prise en compte du handicap dès qu'on conçoit un équipement ou un projet. Et aujourd'hui, on capitalise tous les enseignements, les bonnes pratiques qu'on a eues pendant les JO. On est en train, par exemple, de diffuser un guide d'accessibilité des événements culturels et sportifs. Ça, c'est un des enseignements des JO qui peut permettre à des collectivités ou à des grandes entreprises de s'appuyer là-dessus en termes de méthode. Et puis, on veut maintenant travailler à cet héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques pour montrer comment est-ce qu'on peut, dans chacun de nos projets, et l'enjeu, ça va être évidemment beaucoup dans le transport, oui, rendre la mobilité beaucoup plus accessible, parce que c'est vraiment la première étape pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller à l'école. La mobilité, l'hébergement, c'est vraiment des enjeux majeurs encore de développement de l'accessibilité.
Et on vous remercie d'être venu en parler ce matin sur Europe 1. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Charlotte Parmentier-Lecoq, merci à vous et très bon dimanche.
Merci beaucoup, bon dimanche à tous.
La semaine politique. Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et nous poursuivons cette semaine politique avec ce nouvel extrait sur Europe 1.
La semaine politique.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit, c'est la députée La France Insoumise de Seine-Maritime, Alma Dufour. Bonsoir, madame la députée.
Bonsoir.
Alors, on va revenir tout d'abord sur cette prise de parole du Premier ministre Michel Barnier. C'était tout à l'heure sur le plateau de TF1. Pas vraiment d'annonce concrète, mais quand même un message adressé déjà aux Français et aussi aux formations politiques.
Moi, je sais depuis le premier jour, depuis le 5 septembre, qu'il peut y avoir une censure. Et que s'il y a une alliance dans les votes, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de budget, il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave, et des turbulences graves sur les marchés financiers, où nous empruntons déjà très haut. Nos taux d'intérêt, les taux d'intérêt que nous sommes obligés de respecter pour financer notre dette avec des investisseurs chinois ou américains, qui sont actuellement presque au niveau de la Grèce.
La catastrophe, si la motion de censure est votée, Alma Dufour, ça vous dissuade de voter une motion de censure dans les prochains jours ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, justement, plus on laissera Emmanuel Macron, par l'entremise de M. Barnier cette fois-ci, mais continue sa politique, plus la France va s'enfoncer dans la crise économique. En fait, ils ont un discours de responsabilité, ils essayent de faire peur aux gens. Néanmoins, c'est quand même Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans, et c'est exactement Emmanuel Macron qui a conduit le pays dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire les finances publiques dans le mur, un taux record de faillite qu'on n'a pas connu depuis 12 ans... En plus, la pauvreté des Français qui a explosé, donc les recettes de TVA qui s'effondrent. Bref, on est sur un cycle très très négatif. Il y a plus de 110 000 emplois qui sont menacés à court terme en France. Et donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est urgent qu'ils laissent faire des gens qui ont une autre approche, qui pourront redresser les comptes de notre pays et surtout redonner du pouvoir de vivre aux gens.
Alors aujourd'hui, Marine Le Pen signe une tribune, elle dénonce les les fausses informations sur un potentiel shutdown en cas de motion de censure. Vous êtes d'accord avec elle? Le gouvernement en fait beaucoup trop sur la situation, sur les risques supposés d'une motion de censure?
Évidemment, c'est Macron et ce sont des centristes soi-disant, on leur fait rarement le reproche de jouer sur la peur et d'être alarmistes, mais tout ce qu'ils disent est faux, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de budget voté, on reconduit le budget 2024, le budget 2024 qu'on avait contre lequel on s'était opposé, mais qui faisait quand même moins de coûts que le budget 2025, donc ça laisserait respirer notamment les collectivités territoriales.
Et le déficit public se creusera encore.
Mais alors, le problème, c'est que, en fait, le déficit de l'année dernière s'est creusé malgré 34 milliards d'économies. C'est pour ça qu'on dit qu'il est urgent qu'on nous laisse enfin gouverner le pays côté NFP. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a déjà eu des coupes très brutales dans les services publics. Ça n'a rien donné en termes de déficit. Pourquoi? Parce que, en fait, vous coupez dans les dépenses de façon indiscriminée, vous laissez les Françaises et les Français s'appauvrir et s'enfoncer dans une des plus graves crises du pouvoir d'achat qu'on a connu depuis 50 ans. Résultat des courses, vos recettes, elles baissent, ce qui se passe avec la TVA. Résultat des courses, votre déficit, il augmente quand même. Donc, c'est un poison qui ne guérit pas. C'est les médecins du Moyen-Âge qui empoisonnaient leurs malades et qui disaient « c'est votre faute si vous ne guérissez pas ». On en est un peu là à ce stade et nous, on a démontré dans la partie recette que le NFP, en allant chercher l'argent dans les poches des très grands milliardaires français, était capable de redresser les comptes et de rétablir le déficit à 3% dès 2025.
Alors, vous avez appelé à l'instant Alma Dufour, finalement, le gouvernement a appelé plutôt Emmanuel Macron a appelé le NFP au pouvoir si le gouvernement venait à tomber. Le nouveau Front populaire sera toujours uni dans ce cas-là? Vous croyez encore à un nouveau Front populaire uni?
Oui, j'y crois, malgré certaines déclarations qui nous ont fait beaucoup de peine de certains élus socialistes. Pourquoi beaucoup de peine? C'est parce qu'on s'est présenté devant les Français avec un programme qui est cohérent, un programme qui est soutenu par plus de 300 économistes, dont il a prix Nobel de l'économie française, un programme qui se tient justement, qui tient tous les bouts et qui propose de changer complètement la logique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de cercle vicieux, je vous l'ai décrite. Plus on appauvrit les gens, plus il y a de la crise, plus les entreprises font faillite, etc., etc. Nous, on propose exactement l'inverse. Les seuls qui ne sont pas en crise aujourd'hui, ce sont nos milliardaires. Je le disais, mais ça peut vous paraître démagogique. 167 milliardaires, si vous les taxez à plus de 2% sur leur patrimoine, vous trouvez déjà 26 milliards. C'est un tiers du chemin à faire pour régler notre déficit auprès de Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des proportions qu'on n'imagine pas quand on est un Français moyen. Et c'est bien ça la question. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation colossale de richesses depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron dans les mains de certains milliardaires, de multinationales. Et on leur demande pas, on va pas les spolier, hein. On leur demande juste de contribuer à la solidarité nationale dans un moment qui est crucial pour notre pays.
Alors ça, c'est votre programme, Alma Dufour, et celui du nouveau Front populaire. Mais encore une fois, il faudra bien quelqu'un à Matignon, il faudra bien s'unir derrière quelqu'un si vous y parvenez. Vous soutenez toujours Lucie Castet. Est-ce que l'ensemble des groupes du nouveau Front populaire sont aujourd'hui prêts à soutenir Lucie Castet à Matignon? Est-ce que ça reste une option qui est crédible selon vous?
Oui, pour moi, c'est tout à fait crédible parce que l'ensemble des groupes avait pris un petit temps, on va dire. Enfin, quand maintenant on voit le temps qu'a pris Emmanuel Macron pour nommer Monsieur Barnier, on dit que finalement c'était pas si long, mais il a pris un temps pour discuter des meilleures options. Et c'est le nom qui faisait le plus consensus entre tout le monde. Si une partie de la frange du Parti Socialiste souhaiterait imposer l'option Bernard Cazeneuve, l'option gauche de gouvernement, l'option gauche qui a trahi les classes populaires et qui fait que le RN est monté inexorablement dans certaines circonscriptions qui étaient anciennement des fiefs socialistes, c'est leur problème, mais je pense que le centre de gravité à gauche se situe effectivement autour de Lucie Castet et que la majorité des électeurs du Nouveau Front populaire trouvent que c'est la meilleure option.
Alors, Alma Dufour, je rappelle que vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Maritime. L'Assemblée nationale s'est prononcée sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. On en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Sans surprise, le traité est largement rejeté par les députés. C'est un vote symbolique, on le précise. Vous saluez tout de même cette union nationale sur ce sujet?
Alors, on la salue pas parce que nous, on est d'ailleurs le seul groupe parlementaire à avoir voté contre, mais pas parce qu'on est pour le Mercosur. On est d'ailleurs le seul groupe au niveau européen à s'opposer à tous les traités de libre-échange.
On précise que le vote de ce soir, la grande majorité des députés s'est positionné derrière le gouvernement dans son opposition au traité.
Voilà, mais sauf qu'en fait, et pourquoi nous on n'a pas suivi la magouille du gouvernement qui atterrira inévitablement sur une déception encore plus grande pour les agriculteurs que ce qui s'est passé l'année dernière, lors de la crise des agriculteurs, c'est qu'en fait le gouvernement ne dit pas je rejette le Mercosur, il dit je rejette le Mercosur
en l'état. Et nous allons négocier encore des mesures miroirs et le respect de l'accord de Paris sur le climat. Or ça, nous, notre devoir, c'est d'alerter les Françaises et Français et les agriculteurs en premier lieu, mais je pense qu'ils le savent déjà, c'est que c'est du vent. Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de respecter les mesures miroirs qui existent déjà. Je vous donne juste un exemple, ça va être parlant, je pense, pour les gens. Il y a des mesures miroirs sur certaines hormones de croissance chez les bovins. Par exemple, le contrôle, c'est quoi? C'est l'éleveur brésilien, par exemple, qui vous donne un papier certifié sur l'ONAR. Vous savez, comme pendant le Covid, j'atteste qu'il n'y a pas d'hormones de croissance dans mon bœuf, et c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est ça, les contrôles dont on parle. Donc, en fait, on n'est pas du tout en mesure de contrôler la réalité du respect des normes sanitaires qui sont imposés à nos agriculteurs. Et quant au climat, bon, je vais vous dire, personne ne respecte l'accord de Paris. C'est pas parce que vous mettez dans un accord de libre-échange qui est contraire dans ses fondements à l'accord de Paris qu'il faut le respecter, que ça va marcher. C'est-à-dire que si on devait vraiment appliquer drastiquement les soi-disant négociations qui sont en train de demander, pendant 5 ans, on n'échange pas avec l'Argentine, dont le président est climato-sceptique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils font semblant de faire croire que l'accord est modifiable et peut être vraiment amélioré. La réalité, c'est que ça va être une catastrophe pour nos agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on a été ferme sur le fait de dire qu'on ne se ferait pas avoir par Macron et M. Barnier.
Donc vous n'avez aucune confiance en l'exécutif pour s'opposer à ce traité. On l'a bien compris, Alma Dufour. On va revenir évidemment sur une polémique qui enfle depuis ce week-end. L'ensemble de la classe politique réagit à ce sujet. Votre collègue Hugo Bernalicis, député LFI également, a provoqué une polémique d'ampleur en déposant une proposition de loi visant à supprimer le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau estime qu'LFI n'est pas un parti comme les autres et dénonce un calcul cynique électoraliste. À qui vous adressez-vous en déposant cette proposition de loi?
Bah, on s'adresse déjà à l'ONU qui s'est alertée, qui s'alerte en fait de l'utilisation très abusive du régime spécial. Pourquoi je dis spécial? En fait, le fait que le délit d'apologie du terrorisme soit dans le code pénal et pas dans le code de la presse fait qu'il est traité de façon tout à fait différente, par exemple, du délit d'apologie de crime contre l'humanité. Par exemple, on a eu, je vous donnerai l'exemple d'une amie à moi, Imane Marafi, qui est infirmière, qui est partie risquer sa vie à Gaza. Elle a fait de la garde à vue, on est venu la chercher à 6h du matin devant ses enfants. Monsieur Meyer Habib, qui a comparé les Palestiniens à un cancer, lui, il n'a jamais fait de garde à vue sur ce sujet-là. En fait, c'est un deux poids, deux mesures total et une criminalisation, à la tête du client, on va dire vraiment les choses comme elles sont, même de citoyens de tous les jours, par le biais de cette utilisation abusive. Donc, à qui on vise? On vise tous les gens déjà qui ont subi de façon injuste ces perquisitions, ces gardes à vue, alors que souvent, la justice, évidemment, les relaxe car il n'y a rien. Et deuxièmement, on vise notamment le juge antiterroriste très connu, Monsieur Marc Trévidic, qui dit lui-même, alors qu'il était à l'origine de la création du déplacement de ce délit dans le code pénal, qui dit qu'en fait, ça a été une très mauvaise idée, que c'est utilisé comme un outil de répression politique, que ça n'a pas grand-chose à voir avec la vraie lutte contre l'antiterrorisme que nous soutenons tous, et que du coup, il est temps de le remettre à sa juste place.
Mais Alma Dufour, vous pouvez comprendre que cette proposition puisse être interprétée comme un geste de complaisance avec certaines organisations terroristes.
Je vois pas pourquoi. Quelle complaisance, regardez.
Vous limitez le nombre de procédures qui sont engagées pour apologie du terrorisme, on a l'impression que vous défendez finalement des personnes qui ne sont pas spécialement des alliés de la République.
Mais pas du tout, puisque ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus de, allez, je vais être gentil, 80%, mais moi je pense sincèrement plus de 95% de ces procédures sont abusives et aboutissent à des non-lieux, car on les utilise pour tout et n'importe quoi, pour museler des gens qui ont juste eu le malheur de défendre des civils palestiniens. On ne parle pas de gens qui disent « vive le Hamas, c'est génial ce qu'ils ont fait le 7 octobre ». Enfin, on va vraiment replacer les choses dans leur contexte. Personne ne soutient le Hamas. Nous d'ailleurs, et je le rappellerai quand même à vos auditeurs, qu'a demandé la Cour, qu'a demandé la France Insoumise depuis le 7 octobre? Que les dirigeants du Hamas et que Netanyahou soient traduits devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est exactement ce qui s'est passé. Nous, justement, nous ne faisons pas de distinction entre les criminels et nous considérons que le Hamas sont bien entendu des criminels. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est décrit par l'ONU, c'est décrit à Amnesty International Alerte également, c'est qu'on n'a jamais eu autant de musellement de la liberté d'expression que depuis le 7 octobre, ce qui s'en est suivi, et le génocide à Gaza. Et donc nous, notre devoir, c'est d'alerter sur la lente et grave dérive des libertés publiques dans notre pays.
Dernière question, Alma Dufour. Le maire Horizon de Nice, Christian Estrosier, était l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin. Il a annoncé le dépôt d'une plainte contre Hugo Bernalicis, dont on a parlé, mais aussi contre votre collègue Éric Coquerel pour intelligence avec l'ennemi. Éric Coquerel qui a refusé hier de qualifier les islamistes d'ennemis de l'intérieur. Alma Dufour, je me permets de vous poser la question. Les islamistes sont-ils des ennemis de l'intérieur? Êtes-vous plus clair que votre collègue?
Alors déjà, je connais Éric Coquerel, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'il a dit.
Ah, c'est absolument. Ensuite, il n'a pas répondu, il a refusé de qualifier les islamistes d'ennemis de l'intérieur. La question était très claire de la part de notre collègue Jean-Jacques Bourdin, il n'a pas utilisé les termes.
Bah, écoutez, d'ailleurs, il faut faire très très attention à ce qu'on va dire là-dedans. C'est-à-dire, si vous parlez des musulmans, non, et c'est dans la tête de...
C'est pour ça que le mot est clair, Madame Dufour,
si
c'est islamiste.
Si vous parlez des islamistes qui ont des projets de s'attaquer à des gens, évidemment que ce sont des ennemis de l'intérieur. Je veux dire, ça me paraît évident. Le problème, et ce qui est très puant dans notre époque, c'est qu'il y a un signe égal volontairement mis en permanence entre les islamistes terroristes et la communauté musulmane de notre pays qui n'a rien demandé et qui aimerait bien qu'on leur lâche un peu les baskets, excusez-moi, et qu'on arrête de les stigmatiser en permanence.
C'est pour ça que le terme islamiste est très clair et a priori, c'est pas le terme musulman que j'ai utilisé, ni moi, ni d'ailleurs mon collègue Jean-Jacques Bourdin.
Je vous reproche pas de faire cet amalgame vous-même, mais ça m'étonne. C'est pour ça que j'ai pas entendu cette interview, mais connaissant mon collègue Éric Coquerel, on est tous très très clairs sur nos positions concernant le terrorisme islamiste. Ça paraît évident. En fait, ça paraît même.
Donc les islamistes sont des ennemis de l'intérieur. Vous le dites plus clairement qu'Éric Coquerel.
Oui, mais si derrière ce mot vous parlez des gens qui ont des projets de s'en prendre à des personnes en France, oui, évidemment.
Pour ceux qui ont un projet, de propager l'islam politique, par exemple.
Mais l'islam politique, ça dépend encore une fois ce que vous recouvrez dedans. Enfin, encore une fois, moi.
Ça veut dire la charia au-dessus des lois de la République, par exemple.
Non, mais alors du coup, on n'est pas d'accord avec ça. Je pense pas, par contre, que l'islam soit la seule religion où il y a des gens qui considèrent que leur loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Par contre, la question c'est est-ce que ces gens-là ont le projet d'assassiner des gens pour l'imposer par la force? C'est de ça qu'on parle. Et dans ce cas-là, évidemment, que ce sont des ennemis de la République.
Merci beaucoup, Alma Dufour. Je rappelle que vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Merci d'avoir été l'invitée politique d'Europe 1 Nuit.
La semaine politique. Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et nous poursuivons cette semaine politique avec ce nouvel extrait sur Europe 1.
La semaine politique.
On vous a parlé la semaine dernière ici même du blues des maires de plus en plus surmenés et de plus en plus violentés. Et ça se passe souvent par le biais des réseaux sociaux. Bonjour Clara Chapaz.
Bonjour.
En direct de San Francisco, vous êtes à une grande réunion de la tech, on va en reparler. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Juste pour recontextualiser, on va commencer par le maire de Clermont, Olivier Bianchi. Sur des images générées par l'IA, on peut voir sa tête et d'autres élus écrasés, tranchés avec un couteau. Alors l'IA et le numérique, évidemment, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi de nombreuses dérives. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en prémunir?
Je tiens d'abord et avant tout à apporter mon soutien aux élus concernés, Olivier Bianchi dont vous avez parlé, mais en effet, comme vous l'avez dit, aux nombreux élus qui subissent ce type d'attaque, un quart des attaques, donc une atteinte sur 15 envers les élus a lieu en ligne, et c'est un vrai fléau, ce harcèlement en ligne, contre lequel il faut que nous soyons extrêmement fermes et que nous devons absolument condamner. Rien ne peut justifier cette haine et cette violence, et le fait de voir ce type de comportement en ligne est effectivement préoccupant et il nous faut absolument pouvoir le condamner. Comment faire? D'abord, avant tout, signaler ces contenus. Je pense qu'il faut dire que les victimes de ces actes ne sont pas seules. Il faut pouvoir en parler publiquement, le signaler auprès des plateformes en ligne, sur le site Pharos aussi, qui est le portail en ligne de signalement de contenus illicites de l'Internet, pour pouvoir montrer ce type de comportement. Je voudrais rassurer qu'on a un certain nombre de dispositifs dans la loi qui permettent d'avoir des actions très très importantes pour condamner les personnes qui font ce type d'harcèlement en ligne, notamment avec la loi SREN de sécurité et de régulation de l'espace numérique. Nous nous sommes dotés d'un arsenal qui permet, en plus de ces finalement de pouvoir bannir par exemple des personnes qui auraient ce type de comportement, les exclure des plateformes suite au signalement et aller plus loin avec des peines qui parfois vont jusqu'à l'emprisonnement.
Et c'est vrai que c'est un combat de chaque instant. Alors on va surfer également sur l'actualité parce que c'est à la une du Parisien Clara Chappaz ce matin. Les nouveaux pièges à clics, des images volontairement mignonnes ou révoltantes comme on vient d'en parler, qui pullulent. On va dire aux auditeurs d'Europe 1 matin week-end de faire très attention à ce trafic émotionnel. C'est vrai qu'on voit absolument de tout.
Oui, ce type de comportement en ligne est tout aussi à condamner et a des conséquences tout aussi néfastes sur nos citoyens. Un des dispositifs sur lequel nous travaillons pour pouvoir protéger nos citoyens de ce type de comportement abusif, c'est un dispositif qui s'appelle le filtre anti-arnaque, sur lequel ont travaillé mes prédécesseurs. Nous sommes en train aujourd'hui de rencontrer un certain nombre d'acteurs pour réfléchir aux solutions techniques qui nous permettront de le mettre en place, mais il est extrêmement important que nous puissions nous saisir de ce type de comportement et rendre cet espace numérique plus sûr, remettre au centre l'utilisateur, le citoyen, pour qu'il puisse utiliser ces outils qui ont aussi beaucoup de choses très positives
à apporter,
mais en sécurité.
Voilà, on va pas rester que sur du négatif, sur le numérique et sur l'IA. L'IA, c'est aussi de l'emploi. C'est la première fois d'ailleurs qu'un ministère lui est dédié. C'est un message, un signal assez fort qu'a envoyé finalement Michel Barnier.
Complètement, la France pour la première fois s'est dotée d'un secrétariat d'État à l'intelligence artificielle et au numérique. Je pense que ça montre l'importance que le Premier ministre Michel Barnier et le Président de la République Emmanuel Macron donnent à cette technologie qui est une technologie transformative. Vous le disiez, je suis à San Francisco dans le cadre d'une réunion internationale qui rassemble un certain nombre d'acteurs sur l'intelligence artificielle et notamment d'ailleurs sur le sujet de la sécurité de l'intelligence artificielle, car comme tous les outils numériques et l'internet qui est rentré dans nos vies depuis maintenant plusieurs décennies, cette nouvelle technologie pose aussi un certain nombre de questions sur lesquelles il nous faut créer une confiance. L'objectif de la réunion des acteurs cette semaine à San Francisco, créer cette confiance pour pouvoir tirer tous les bénéfices de cette technologie qui sont énormes. Aujourd'hui, quand on pense à l'intelligence artificielle, on a peut-être en tête tous les outils de notre quotidien, ceux qui nous permettent, par exemple, à un docteur de pouvoir être accompagné par la technologie, de sorte à ce que quand il échange avec son patient, la technologie puisse lui permettre de prendre des notes, de pouvoir se libérer de ce temps administratif et qu'il puisse se concentrer vraiment sur l'échange avec son patient. Mais au-delà de cet accompagnement du quotidien, c'est aussi une technologie qui permet des avancées exceptionnelles dans les sciences notamment, que ça soit dans la recherche de médicaments contre le cancer, que ça soit dans la recherche et la création de nouveaux matériaux, par exemple pour remplacer le plastique et pouvoir faire de belles accélérées sur ce type de recherche. L'intelligence artificielle ouvre énormément d'opportunités, mais pour pouvoir les saisir, il faut bien sûr aussi rassurer sur son usage. C'est ce qui nous occupera afin de faire en sorte que cette technologie puisse vraiment se diffuser auprès de toutes et tous. Et que nous puissions en tirer les bénéfices, que ça soit au niveau des entreprises, que ça soit au niveau des individus, parce que ces bénéfices sont extrêmement puissants.
Et ce qui permettra aussi de former des gens, d'ouvrir de nouvelles filières, notamment dans l'enseignement supérieur. On va effectivement continuer de se perfectionner. En tout cas, vous étiez à San Francisco en direct de San Francisco. C'est la mecque de la tech, hein, effectivement. Clara Chappaz, on vous remercie d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1.
La semaine politique. Leclerc, bonjour.
Bonjour, merci pour les 34% de réduction sur les chocolats. Ça a du bon, les traditions.
Comme les gourmandises de Noël.
Et surtout comme les belles promos Leclerc pour préparer les fêtes.
Et oui, notre tradition à nous, c'est les bons plans. Alors profitez de 34% de réduction avec votre carte Leclerc sur les rayons confiserie et chocolat de Noël du 29 novembre au 1er décembre pour le Black Friday. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produit Eco Plus et c'est qui le patron? Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
La semaine politique Europe 1. Lénaïque Monnier.
De retour dans la semaine politique sur Europe 1 pour revenir sur les temps forts de la semaine. Je vous propose à présent un nouvel extrait.
La semaine politique.
Nous recevons avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel le président des centristes Hervé Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Morin, Michel Barnier fera une énième apparition tout à l'heure aux 20h de TF1. Il reçoit tous les groupes politiques cette semaine et un mot revient sans cesse, censure. Alors, censure ou pas censure, Hervé Morin?
J'en sais rien. Le calendrier, il est dans les mains de Marine Le Pen. En clair, quand considérera-t-elle qu'elle crée les conditions de la crise politique? Quand considérera-t-elle que l'accumulation des crises amènera à une élection présidentielle? Parce qu'on voit très bien ce qui va se passer. Ça va pas durer 2 ans, cette histoire-là. Et le seul moyen de résoudre la crise, c'est qu'Emmanuel Macron finisse par quitter l'Élysée. Et donc, pour quitter l'Élysée, Marine Le Pen aura quelque chose de très simple à jouer. Des gouvernements qui ne tiennent pas, un pays qui ne se réforme pas.
Et elle censurera à chaque fois?
Ce sont des crises à l'italienne, si je puis dire, ou des crises assez comparables à celles de la 4e République ou de la 2e partie de la 3e République. Bon, moi je pense que l'équation est assez simple. Ceci dit, je voudrais juste vous dire une chose. Je le disais avant de rentrer sur le plateau. Moi je suis président d'une région qui est une grande région industrielle, qui est la première région industrielle de France, 21% du PIB. Le nombre d'investissements industriels qui s'arrêtent est gigantesque. Pourquoi? Parce que plus personne n'a confiance. On a affaire à des dingos à l'Assemblée nationale, un spectacle ahurissant.
Qui en particulier?
Ouais, les filles surtout, quoi. Enfin bon, bref, et puis des propositions ahurissantes dans tous les sens, qui émènent même parfois des groupes dont on pourrait estimer qu'ils soient plus raisonnables.
Sur l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme.
Oui, non, mais je pense surtout, j'ai pensé, oui, bien sûr, mais au-delà de ça, sur les propositions fiscales diverses et variées, la remise en cause de la loi Dutreil sur la transmission des entreprises, etc. Enfin, on a tout vu. Tout vu.
Travailler cette année gratuitement.
Parce que il faut bien voir. J'ai été parlementaire malheureusement pendant 20 ans. Je dis malheureusement parce que ça veut dire que j'ai vieilli.
Dire que vous êtes lucide.
Oui. Et puis là, je vois ça de loin. On a d'un côté un certain nombre de personnages politiques qui sont dans la posture, qui donnent des leçons alors qu'ils sont largement responsables de tout ça. Je pense à Darmanin ou à Attal. Et qui ne pense qu'à une chose, c'est pas l'intérêt du pays, il pense qu'à une chose, c'est l'élection présidentielle. Et puis de l'autre, vous avez ceux qui pétochent tous les matins, parce que demain matin ou après-demain matin, il va y avoir une dissolution. Et donc, il va falloir retourner devant les électeurs. Donc voilà comment Michel Barnier doit naviguer entre ces deux courants. Mais moi, ce que je vois dans ma région, c'est l'arrivée d'une récession. Je le dis depuis des mois, pas depuis 15 jours ou un mois, les premiers plans de licenciement. Une récession majeure, l'investissement industriel s'arrête, deux grands projets industriels sont remis en cause en attendant que les choses aillent mieux, contexte international, contexte national. La consommation est à l'arrêt. Demandez aux restaurateurs. C'est catastrophique et c'est un très bon indice. Même dans les lieux privilégiés comme Deauville-Trouville, les restaurateurs connaissent une fin de saison calamiteuse. Vous avez le secteur automobile, le secteur du logement. Vous y ajoutez désormais les collectivités locales qui étaient acteurs contracycliques. Donc on a tous les éléments. Le seul qui pourrait un peu nous sauver, c'est la Banque Centrale Européenne.
Le diagnostic, on l'a, Hervé Morin.
Oui, mais je le dis quand même.
Merci de nous le rappeler. Là, vous, les centristes, avec vos centristes, avec vos hommes, avec vos femmes, qu'est-ce que vous faites dans tout ça? Où est-ce que vous vous positionnez? On parle toujours d'équilibre politique pour que le gouvernement fonctionne, pour que la démocratie marche. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je vais vous dire, ce que je souhaite, c'est que le plus rapidement possible, on tourne la page.
Donc, ça veut dire une censure?
Tourner la page de cette période si singulière et que, très rapidement, les Français soient en capacité d'élire un nouveau président de la République, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et qu'on puisse enfin essayer de porter quelques transformations dont on a tant besoin.
Mais vous pensez vraiment pas qu'il ira au bout de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, si on vous comprend bien aujourd'hui?
Qui fait courir une rumeur comme quoi le gouvernement va tomber et va être censuré par Marine Le Pen. C'est ce que rapporte le Parisien.
Et démenti par l'Élysée. Mais
une info plus un démenti, ça fait deux infos.
Ça fait deux infos.
Écoutez, franchement, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce qui va rester au bout du compte des réductions de dépenses publiques? La seule équation pour calmer les plaies des uns et des autres, c'est l'augmentation de la fiscalité. Moi, je constate, je vois que les départements pour les collectivités locales ont obtenu l'augmentation de droits de mutation, comme si c'était le moment, compte tenu de l'état du logement. et l'immobilier. Nous, on parle d'un nouveau prélèvement versement mobilité, c'est-à-dire d'un prélèvement qui porte sur la masse salariale des entreprises. Franchement, vous croyez que c'est aussi une idée?
Et vous n'avez pas parlé des agriculteurs qui sont nombreux en Normandie.
Alors les agriculteurs en Normandie, l'agriculture elle est très diverse. Il y a une agriculture qui va, parce qu'on parle toujours de l'agriculture qui va mal, moi je peux vous parler aussi de l'agriculture qui va très bien. Mmh. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ça va bien, voire très bien. L'agriculteur du Pays de Caux qui fait du lin, de la pomme de terre, qui s'est lancé dans la zone de diversification, ça va bien. Le prix du lait n'a jamais été, qui était un secteur plus difficile, n'a jamais été aussi élevé. Le prix du porc n'a jamais été aussi élevé. Et la viande bovine, qui était traditionnellement le secteur difficile, a pris 2 euros du kilo.
C'est quoi véritablement, selon vous, Hervé Morin, le problème de ce budget? Ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'il n'y a pas de réforme structurelle, qu'on augmente la fiscalité, finalement, c'est un petit peu facile. Est-ce que finalement, Michel Barnier, le principal reproche que vous lui faites, c'est qu'il a manqué de courage dans ce budget?
Je ne connais pas la copie finale. Personne ne la connaît puisque elle va être écrite au moment où il y aura, j'imagine, un 49-3. Bon, donc je lui laisse le privilège du doute, si je puis dire. Bon, ce que je vois, c'est que de toute façon, on voit bien que dans l'urgence dans laquelle il était, il essaie de faire de briques et de brocs. Le problème de la France, c'est la question de sa gouvernance publique et de l'efficacité de la dépense publique. Ce sujet-là n'est absolument pas abordé. On continue à enchevêtrer toute une série de législations, de taxes. Je veux juste dire à un auditeur d'Europe 1 que lorsqu'une entreprise veut s'installer sur une zone d'activité existante et que un certain nombre de fonctionnaires d'une administration qui s'appelle la DREAL arrivent sur le champ et trouvent que c'est humide, ça devient une zone humide. Zone humide, si vous avez une artificialisation pour une entreprise avec 10 hectares d'installations, d'équipements ou de bâtiments, on vous dit, monsieur, il faut trouver 2 fois la surface en zone humide. Donc, il faut vous démerder pour trouver 20 hectares quelque part d'un champ qu'on va transformer en zone humide. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit?
La semaine politique. Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et nous poursuivons cette semaine politique avec ce nouvel extrait sur Europe 1.
La semaine politique.
Avec Hervé Morin, on parle de politique et de Michel Barnier qui va donc s'adresser, pas aux Français, mais en tout cas il choisit la première chaîne, le premier journal le plus écouté, le plus regardé de France tout à l'heure à 20h à la télévision. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Vous qui le connaissez d'ailleurs depuis très longtemps, vous avez été ministre
au gouvernement
près,
avec lui, je l'ai connu dans
avec le constat que vous venez de faire, qui est quand même assez sombre, qu'est-ce que va pouvoir dire Michel Barnier?
Je pense que la seule chose qu'il doit pouvoir dire, c'est l'appel à la responsabilité et prendre à témoin les Français. Je veux dire, s'il n'y a pas autre chose à faire.
Les Français, ça marche encore.
Ah ouais, mais les Français, ils sont quand même très inquiets sur la situation. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu autant de mes compatriotes venir m'interroger sur la politique. En général, maintenant, les gens sont dans la différence complète. Là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont interrogé, inquiets. Est-ce que la France va devenir la Grèce?
Mais vous n'avez pas la solution, etc. Où est-ce que vous l'avez?
Je vous dis, la solution, pour moi, elle passera par un nouveau jeu démocratique.
Un nouveau jeu démocratique. Oji William, on vous sent très silencieux sur cette situation.
Je veux pas faire d'excès de modestie, c'est pas ce qui me caractérise le plus, mais je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas merveilleusement en politique politicienne. J'ai bien compris à entendre...
C'est l'avenir du pays, là.
Non, mais oui, mais M. Morin n'a pas tort en pointant la responsabilité du chef de l'État. Celui qui nous a mis dans le bain, si j'ose dire, parce qu'il est mauvais joueur et qu'il n'avait pas accepté le résultat des élections européennes, il s'appelle Macron Emmanuel. Et Monsieur Barnier, moi, pardon, hein, il m'inspire une sorte de charité, parce qu'il n'y est pour rien, il n'a pas de majorité.
Connaissez la situation du pays, Gilles William.
D'accord, mais il fallait bien accepter, Jules. Je veux dire, il a accepté. Mon premier sentiment d'avoir, en tant qu'homme de droite, accepté de recourir à l'impôt n'a pas été très positif. Mais on est dans une situation de quasi-faillite. Donc malheureusement, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que je rejoins Hervé Morin. Hors de la démission du chef de l'État et d'une dissolution de l'Assemblée nationale, point de salut alors que nous sommes dans une situation économique, financière, sociale, qui peut nous amener très loin, y compris dans la rue avec les voyous auxquels faisait allusion Monsieur Morin il y a quelques secondes.
Il ne peut pas y avoir de dissolution avant 7 mois, hein. Quand même, il faut le rappeler aux auditeurs.
Oui, et puis, qui va sauver le pays derrière? Est-ce que tout d'un coup, un homme providentiel ou une femme présidentielle...
Femme présidentielle, vous y alliez un peu vite, parce que comme si ça ne suffisait pas, je ne veux pas prendre parti dans l'élection présidentielle, mais comme ça ne suffisait pas à notre malheur, nous avons des juges particuliers qui n'ont pas le sens de l'économie, de la notion très exceptionnelle d'exécution provisoire. Mmh. Avouez qu'on n'avait pas besoin de ça en plus.
Sur cette question-là,
sur l'exécution provisoire, franchement, un vrai scandale. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de risque de récidive, etc. Bon, elle risque pas de s'en aller. C'est, derrière ça, c'est quand même des parlementaires qui ont voté ça. C'est quand même toujours les mecs qui veulent laver plus blanc que blanc.
C'est la loi Safa.
Et j'ai été pris en groupe, etc. À chaque fois qu'un parlementaire allait sur ce sujet-là, je disais quelque chose de très simple. La démagogie est sans fin. On peut la nourrir autant qu'on le veut. L'anti-parlementarisme, on peut le nourrir autant qu'on le veut. Ça ne le réduira jamais, jamais. Et donc, il y a quand même des choses qu'on a voté, alors sur les lois sur l'environnement que j'évoquais tout à l'heure, on a des pléiades, et on a tout fait pour affaiblir aussi la politique et la démocratie dans le pays,
par toute une série
de niveaux des politiques du coup. Et d'ailleurs, le niveau
Torres, des politiques. Pour le JDD. Pardon, mais si Michel Barnier veut rester et passer Noël, est-ce que la chose qu'il peut faire ce soir, c'est de dire oui aux exigences qui ont été formulées hier matin par Marine Le Pen? Est-ce que c'est pas ça aussi la solution?
C'est quoi ces exigences, hein? C'est quoi le modèle? Il faut tout de même que on
suppression adresse... de la hausse de l'électricité, d'accord, des garanties sur l'immigration.
Mais moi,
la joue de la proportionnelle.
Moi, je dois faire dans ma région 170 millions d'euros d'économies dans les deux prochaines années.